Ben, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Annie Pauline Sanpassant, je suis co-directrice du CRIJAD. Je suis aussi en fait professeure à l'École de travail social. Et mes intérêts de recherche, moi, c'est depuis environ 13 ans maintenant, 14 ans, sur les jeunes trans et leurs familles. Avant ça, ma thèse était sur l'éthique, l'identité professionnelle des travailleurs sociaux, là, vous allez dire. Comment on passe de ça à ça, mais je vais vous en parler en fait parce que ça a beaucoup lieu de discuter les positionnalités. Fait que je suis vraiment contente en fait de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un thème en fait que je travaille depuis longtemps, ces questions-là. C'est en fait au cœur de plusieurs de mes travaux et vous allez comprendre pourquoi. Parce que en tant que chercheur, j'ai été confrontée en fait à ces questions-là bien avant que je sois prête à être confrontée à ça, puis bien avant, je vous dirais qu'on commence à en parler là, de façon soutenue comme aujourd'hui. Si on regarde en fait les écrits, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées là, en 2020, 2021, 2022 sur la positionnalité. En fait, je vais vous parler un petit peu rapidement, là, je vous ai dit que je travaillais sur les jeunes trans et non-binaires, mais pourquoi la positionnalité est importante? Bien, en fait, premièrement, je suis une personne cisgenre. Je suis une personne aussi, je suis en couple avec un homme. Donc, je suis une personne, en fait, pas de la diversité sexuelle ni de la diversité de genre. Je m'intéresse aux jeunes trans et non-binaires. Je suis aussi parent, qui vient, parent d'une jeune de la diversité de genre, ce qui vient, vous voyez, ajouter une couche de positionnalité ici. Et en fait, c'est ce qui m'a amenée à modifier tranquillement mon programme de recherche. Donc, j'ai parlé que je m'intéressais aux questions d'identité professionnelle au tout début. Et lorsque, en fait, ma famille a réalisé qu'on accompagnait une jeune de la diversité de genre, avec une collègue, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser nos privilèges d'être professeur d'université puis d'avoir la capacité d'aller chercher des subventions pour essayer de produire de la recherche qui est respectueuse des identités de genre, qui va favoriser en fait l'épanouissement de tout le monde. Et là, vous allez dire, mais pourquoi besoin de faire ce genre de recherche-là? Je vous dirais qu'avant 2010, les recherches sur les jeunes trans et non-binaires étaient principalement en lien avec une vision très, très pathologisante. Donc, ce qui était fait, c'est que c'était des recherches qui étaient faites principalement dans des cliniques, où est-ce que les parents qui avaient des enfants qui étaient créatifs sur le plan du genre, emmenaient leurs enfants et là, on faisait des interventions familiales de type cognitivo-comportemental. On blâmait beaucoup la mère d'avoir un mauvais attachement. Donc, on essaie de développer cet attachement-là avec l'enfant. Et quand l'enfant avait des comportements atypiques, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retournait puis on ne regardait pas l'enfant. Puis quand l'enfant allait chercher les bons jouets, bien, on donnait du conditionnement positif. Ça ressemblait, bon, c'est un peu simplifié, mais vous comprenez que toute la recherche était principalement ancrée dans ces perspectives-là. Donc, en tant que parent, avec une autre collègue, on s'est dit que ce serait important d'essayer d'utiliser nos privilèges pour voir si on ne peut pas aller chercher des sous pour développer des projets de recherche qui seraient plus émancipateurs, qui iraient dans la dimension de l'empowerment, dans le respect de la personne. Et donc, vous voyez, tout de suite en partant, j'ai été confrontée à ma positionnalité parce que, bon, le sujet, l'intérêt dans le sujet vient de ma perspective personnelle, mais ce n'est pas la norme de le dire ouvertement. Alors, comment on fait pour changer un programme de recherche de l'identité professionnelle aux jeunes trans? Bien là, la question de positionnalité devient centrale parce qu'on ne peut pas juste changer d'idée. Vous le savez, vous faites de la recherche. On ne peut pas juste changer d'idée comme ça puis commencer à développer des projets de recherche. Donc, c'est un peu de la perspective que je pars ce matin. Puis vous allez voir qu'il y a d'autres questions de positionnalité qui traversent mes travaux. J'en reparlerai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un peu c'est quoi la positionnalité rapidement. Je vais vous présenter les impacts de cette positionnalité-là sur la recherche et je vais essayer de l'illustrer, en fait, avec les travaux sur les jeunes trans et non-binaires à partir de ma propre positionnalité de femme cisgenre. Donc, c'est quoi la positionnalité? Je suis certaine que la plupart des gens là, sont bien au courant de ça, mais je vais juste le répéter pour être certain. Ça fait référence, en fait, à un ensemble de caractéristiques hein, qui constituent la personne. Ça l'inclut, par exemple, ses valeurs et ses croyances, parce qu'en fait, on est des personnes qui ont des valeurs et ces valeurs-là affectent toutes nos décisions dans notre vie. Ça l'inclut aussi notre positionnement social, quand on parle là, vraiment de qui on est. Ça l'inclut nos caractéristiques personnelles assignées socialement, l'âge, la race, l'orientation sexuelle, le statut migratoire, l'identité de genre, etc. Et aussi, ça inclut d'une manière son intention de faire la recherche sur un sujet spécifique. Donc, pourquoi on s'engage dans cette recherche-là? Donc, ici, vous pouvez voir que tout le monde va occuper une certaine position à l'intérieur en recherche. C'est un tout petit peu petit, mais je vais vous envoyer le PowerPoint si vous voulez. En fait, j'ai sorti deux roues. La première, c'est en fait les valeurs. Ça représente les valeurs. J'aurais dû mettre la référence. En fait, c'est adapté des travaux de Schwartz, qui est un chercheur qui s'intéressait à comprendre les valeurs à travers le monde. Et il voulait voir si, en fait, le monde était si différent d'un endroit à l'autre, si les gens étaient vraiment différents en termes de culture, s'il y avait des valeurs différentes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un questionnaire dans plusieurs langues et ils l'ont passé dans plusieurs pays pour essayer de voir, en fait, c'est quoi les valeurs qui émergent. Et dans ses premiers travaux, il a sorti 10 valeurs principales et je pense que la dernière version, on était rendu à 19. Mais en fait, ce que ça nous montre, c'est que partout dans le monde, la plupart des gens vont partager les mêmes valeurs. Donc, il n'y a pas de différence de valeur. Moi, quand j'enseigne l'éthique, ben, je parle de ça, en fait, parce qu'on peut aller à la rencontre de l'autre. On a, en fait, quelque chose à aller travailler ici. Mais ce qui va changer, en fait, d'une personne à l'autre, c'est son hiérarchisation. Et parfois, on va voir certains groupes sociaux qui vont mettre de l'avant une valeur plus que l'autre en les priorisant. Mais on voit qu'on a des valeurs qui sont d'ouverture de changement, des valeurs qui sont d'affirmation de soi, des valeurs qui sont un peu plus de conformité, de conservation, puis d'autres de dépassement de soi. Et là, vous voyez qu'on a plus là, des informations, donc l'hédonisme, le pouvoir, la dominance, la conformité, le respect de l'autre, etc. Donc, on a toutes sortes de valeurs. Donc, dépendamment où vous vous situez par rapport aux valeurs, c'est certain que ça va avoir un impact sur la manière dont vous voyez votre objet de recherche. Est-ce que vous voyez ça? Et à ma droite, sur mon écran, on voit aussi la roue qui est adaptée de Duckworth, qui est en fait la roue de l'intersectionnalité, qui montre les fameuses positions sociales. Et comment, en fait, une personne va occuper plusieurs positionnements sociaux quand on regarde en termes de sexe, d'hétérosexisme, d'âgisme, de capacitisme, etc. Et donc, une personne n'est pas juste un sexe. Une personne n'est pas juste un handicap ou de ne pas avoir un handicap. La personne est constituée de toutes sortes de caractéristiques. Tout le monde pourrait trouver, en fait, son point, pourrait dessiner, en fait, sa toile sur cette cercle-là. Et ça nous amène, évidemment, à comprendre que plus on est prêt du milieu en termes de positionnement social, plus on est près du pouvoir, tandis que plus on est à l'extérieur, bien, plus on va se trouver parfois en situation de marginalisation, d'oppression, etc. OK? Donc, notre positionnement social, notre positionnalité, si on ajoute les valeurs à ça, bien, ça fait en sorte qu'on est toutes des personnes qui n'arrivent pas de manière désinvestie en recherche. On n'est pas tout le monde qui s'engage en recherche. Moi, j'aurais le goût de dire ça même pour les gens qui font du quanti, qui vont essayer de tester des hypothèses, des outils standardisés. La question de positionnalité vient quand même, émerge quand même de ces discussions-là parce que pour avoir décidé d'une part de choisir de prendre cet outil-là plutôt qu'un autre, de positionner notre hypothèse d'une manière ou d'une autre, vous me suivez? Donc, la positionnalité, finalement, elle est omniprésente. Donc, ça touche tout le monde. Peut-être qu'on en parle plus dans les sciences sociales, recherche qualitative, etc., mais je pense que ces discussions-là sont pertinentes vraiment pour tous les chercheurs qui s'engagent dans tous les domaines. On sait que la positionnalité a des impacts, en fait, sur la recherche. Il y a une petite pause ici, la relation. En fait, ça va affecter sa relation face à la population étudiée, à savoir si la recherche est faite d'une position insider ou outsider. Et souvent, on va parler de la position insider and outsider. Quand on est dans une position insider, c'est qu'on a des caractéristiques, en fait, qui vont être similaires à la population qu'on étudie. Quand on est dans une position outsider, ça veut dire qu'on va avoir des caractéristiques qui sont plus, en fait, différentes à l'opposé. Donc, on pourrait dire que moi, par exemple, en tant que femme cisgenre, qui s'en va vers la cinquantaine, qui travaille sur les jeunes transgenres et non-binaires, bien, je suis vraiment d'une position outsider. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il faut aller réfléchir un peu. Est-ce que ma position de parent, d'accompagner quelqu'un, m'amène ailleurs en termes de positionnalité? Je ne serai jamais insider, mais est-ce qu'en même temps, je suis totalement outsider? Donc, vous voyez ici, il y a quand même des dimensions intéressantes qui complexifient la question de la positionnalité. Mais on sait que on va parler souvent de cette positionnalité-là, insider et outsider, et ça va être particulièrement débattu Quand le chercheur ou la chercheuse occupe une position minoritaire ou interroge les relations de pouvoir entre les groupes. Donc, ça va faire réagir les gens plus lorsqu'on a, par exemple, une personne trans et non-binaire qui fait de la recherche sur les personnes trans et non-binaires ou un parent qui fait de la recherche sur les jeunes trans et non-binaires parce que là, soudainement, c'est comme « Wow, cette personne-là va être biaisée, c'est certain. » Mais quand on a une personne qui n'a pas, par exemple, une positionnalité, qui ne partage pas de positionnalité, là, c'est « Ah, oh, c'est correct! » Quand en fait, on sait qu'il va avoir quand même des impacts à cette positionnalité-là. On sait que la positionnalité peut avoir des impacts réels sur la recherche, sur l'ensemble des acteurs, actrices concernés aussi. Donc, ça ne va pas aller juste impacter la personne qui fait la recherche, mais aussi les personnes qui vont participer à la recherche, puis même le développement d'éventuels partenariats avec des organismes communautaires ou autres. Donc, si on regarde les enjeux en lien avec la positionnalité, ben, on sait que ça va influencer, j'en ai déjà dit un mot, ça va influencer les choix méthodologiques qu'on va faire. Parce que même de décider d'aller vers du qualitatif, ça va parler un peu de la valeur qu'on a face à la recherche sociale ou toute autre recherche. On pourrait s'engager dans une recherche de type qualitatif, exploratoire, auto-ethnographie, si on croit en fait que la vérité est construite d'une multiplicité de perspectives des acteurs et qu'on veut les faire ressortir dans toute leur complexité. Si on croit qu'il y a des vérités à trouver et qu'on a juste à les tester, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire par rapport aux valeurs? Ça va venir peut-être nous influencer vers un choix méthodologique plutôt qu'un autre. Ça va aussi influencer les questions qui sont posées et leur pertinence. Pourquoi? Bien, si on est une personne insider, eh bien, c'est possible qu'on ait des vécus particuliers qui font en sorte qu'on a le goût de s'investir dans une question de recherche plutôt qu'une autre. Je vous ai parlé de mon parcours de recherche en lien avec les jeunes trans, mais je pourrais vous parler de pourquoi je suis allée étudier les enjeux de dilemme éthique, d'identité professionnelle puis de valeur comme doctorat. C'est qu'avant de faire mon doctorat, je travaillais comme travailleuse sociale sur ma communauté à Wendake, au nord de Québec. Et puis, j'ai vécu des dilemmes éthiques en essayant de faire des approches d'action sociale. Et puis, je me disais, est-ce qu'on peut vraiment arriver à des positions d'interventions qui vont défier en fait les relations de pouvoir entre la personne et les personnes qui sont impliquées, entre l'intervenante et les groupes concernés. Et donc, c'est vraiment ces dilemmes éthiques-là qui m'ont amenée à vouloir poursuivre un doctorat là-dessus. Est-ce que je l'ai dit à tout le monde? Moi, je l'ai écrit en fait dans mon introduction de thèse, mais est-ce que tout le monde va automatiquement parler de pourquoi ils font la recherche sur quelque chose? Pas toujours. Okay, mais vous voyez que ça va venir influencer les questions qu'on pose. Si on n'a pas d'expérience dans cette question-là, ben, ça peut être juste sur une recension des écrits. Mais la recension des écrits, les textes qu'on consulte, c'est qui les écrit? Il faut réaliser aussi que beaucoup des textes qu'on utilise sont écrits par des personnes qui ont des positionnalités. Souvent, c'est des textes qui sont écrits par des universitaires qui vont être dans des positions de privilège. Souvent, près des cercles de pouvoir dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, je pense que ça change tranquillement, mais c'était principalement des hommes blancs qui écrivaient la recherche avec des perspectives, des valeurs qui, même si on clame être d'une certaine objectivité dans les textes qu'on écrit, il ne faut pas mélanger rigueur et objectivité. La rigueur, c'est une chose, l'objectivité, c'est une autre. Donc, tout ça pour dire que ça va venir influencer ça. Ça affecte aussi l'interprétation des données, puis même la crédibilité des résultats. Je donne un exemple ici. Interprétation des données à la chaire de recherche, puis dans notre équipe, en fait, à ma chaire de recherche, les projets qu'on mène, ben, c'est pratiquement toutes des personnes trans et non-binaires qui travaillent sur les projets et qui font les analyses. Quand ces personnes-là regardent les données, ben, évidemment, ils vont avoir une perspective peut-être que moi, je n'aurais pas. Ça se peut qu'en lisant un texte, je manque quelque chose. J'ai un angle mort. Parce que bien ce que j'ai lu la plupart des textes, ça se peut que j'ai perdu une compréhension très, très intime avec le vécu qu'on est en train d'exploiter. Donc, ça pourrait en fait affecter ça. En même temps, ça se peut que si on est une personne concernée puis qu'on a nous-mêmes des enjeux reliés à ce qu'on est en train de voir, d'analyser, bien, ça se peut que ça ait aussi un effet où est-ce qu'on focus sur quelque chose plutôt que sur quelque chose d'autre. Donc, vous voyez que ces positions-là, insider, outsider, vont venir vraiment affecter cette interprétation des données. Puis après ça, la crédibilité des résultats aussi. Au tout début, quand j'ai commencé à publier puis à faire, j'ai pris la parole dans les médias par rapport aux jeunes trans, surtout autour des années 2015-2016. Et quand j'avais des données de recherche qui ne faisaient pas l'affaire de ce que les gens me posaient comme question, souvent ils disaient « Ah, mais vous êtes un parent aussi! » Comme si en fait les données que je présentais comme chercheuse, les processus de méthodologie rigoureux que j'ai mis sur place pour être capable d'aller chercher la donnée étaient soudainement discrédités par le fait que j'étais parent. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec la discréditation des résultats. Ça peut affecter le recrutement. Si vous n'êtes pas en lien avec les communautés ne vous connaissent pas, ils n'auront peut-être pas le goût de participer. Vous allez peut-être aller chercher un type de participant plutôt qu'un autre. Ça peut affecter la même chose si vous êtes dans une communauté particulière. Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne veulent pas participer parce qu'ils vont se dire « Ah, ben cette personne-là est trop ci ou est trop ça. » Donc, le résultat. Vous voyez, donc ça a vraiment d'un bord ou de l'autre des impacts. Ça va aussi affecter peut-être l'engagement des participants dans la recherche. Est-ce qu'ils vont avoir le goût vraiment de tout vous dire? Quand on mène des entrevues, moi je vous dis, si je vais mener une entrevue, peut-être que les gens vont me dire des choses. Si c'est une personne concernée qui va l'amener, il y a un lien de confiance qui peut se développer, qui peut amener la personne à aller parler d'autres choses. OK? Gestion des biens inconscients, ça va affecter ça aussi. En fait, si on est dans une positionnalité insider et qu'on le sait, ou qu'on est dans une positionnalité outsider et qu'on le sait, ça n'aura pas le même impact que si on n'a jamais réfléchi à ça. Et puis finalement, ben, ça pourrait affecter les relations de confiance, la sensibilité à traiter le sujet de recherche, etc. Donc, il y a des gens qui vont nous dire que c'est important de sortir de cette dichotomie insider-outsider. Parce que vous voyez que c'est, si on pense à l'intersectionnalité, c'est possible qu'on ait des positionnements sociaux qui ne soient pas si clairs que ça. Je ne sais pas, je me souviens pas si je l'ai dit, mais voilà, ben, j'ai parlé de ma communauté. Donc, je suis une personne autochtone, je suis une personne Wendat. En tant que femme autochtone, est-ce que ma réalité me permet de comprendre nécessairement la réalité de toutes les femmes autochtones à travers le Canada? Il y a des processus que je comprends. Il y a des processus que j'ai vécu, même si je ne suis pas sur les mêmes communautés ou que je n'essaye pas de comprendre les mêmes choses que les autres personnes ont vécu. Mais est-ce que je comprends tout parce que j'ai une positionnalité particulière? Est-ce que mon privilège d'être professeur d'université ne m'emmène pas à une autre perspective qui peut-être... Bon. Donc, et puis l'autre chose, est-ce que parce qu'on est une personne avec une positionnalité, on doit absolument faire de la recherche sur ce groupe-là? Est-ce que moi, j'ai envie d'être juste fermée, renfermée sur cette positionnalité-là puis me dire, ben, à partir de maintenant, je vais faire juste de la recherche sur les personnes autochtones parce que je suis une personne autochtone, mais je suis autre chose. OK? Donc, vous voyez que la dichotomie insider-outsider peut parfois nous emmener à des débats qui sont un peu stériles. Donc, il faut peut-être sortir de ça. La réflexivité, ça a été. Il y a des gens qui ont écrit sur la réflexivité en disant que ça peut être une piste intéressante pour sortir de ça. Moi, j'aurais le goût, en fait, on va parler aujourd'hui là, de positionnalité, j'aurais le goût de dire que peut-être il faut aller plus loin que ça parce que la réflexivité, c'est fait de façon individuelle. Quand on est tout seul puis qu'on réfléchit, des fois, on manque des choses. Ça pourrait nous emmener, en fait, à penser qu'on a bien réfléchi, mais on ne l'a pas fait. Donc, finalement, c'est peut-être une belle piste de départ, mais il y a peut-être autre chose. Aussi, quand on parle de positionnalité, c'est souvent pour défier les relations de pouvoir. Hein? Parce qu'on parle de DI, on parle de décolonisation. Donc, effectivement, on utilise la positionnalité pour essayer de rebalancer cette notion de pouvoir en disant, écoutez, cette recherche-là a toujours été faite par des personnes comme ça. Et moi, avec cette positionnalité-là, j'amène une différente perspective. Je ne vous ai pas parlé de ça au début avec mon vécu de parent. OK? Donc, on essaie de rétablir des relations de pouvoir qui ont été pendant longtemps déséquilibrées. Mais en même temps, en mettant des positionnalités de l'avant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de créer différentes relations de pouvoir dans des petits groupes et que ces relations de pouvoir-là, peut-être, nous empêchent d'avancer dans une réelle réflexion puis l'écoute de l'autre plutôt que... parce qu'en fait, si on pense juste à nos positionnalités, est-ce qu'on écoute vraiment l'autre?